Les voies de service, mercredi 2018. Isabelle Falardeau, micro, en compagnie cette semaine de Daniel Lachance.
Bonjour.
Et de Serge Bradet.
Bonjour.
Toujours avec Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde. Toujours aussi heureux qu'il soit de retour. Aujourd'hui, moi, une semaine en retard, je vais finalement vous parler de cannabis à mon tour. En tout cas, je suis en train de dévoiler ce dont je vais parler en deuxième partie. On oublie ça tout de suite, je vous en reparle plus tard. En première partie de l'émission, je vais vous parler de guérison et détention. Ah. Oui, c'est possible de guérir en prison. Peut-être pas physiquement,
mais en tout cas, mentalement. Bon moyen, mais...
De votre côté, vous allez nous parler d'une grande diva québécoise.
Oui, qui lance un album bientôt.
Ça doit être son plusieurtième,
oh oui, je vais vous le dire dans l'article. Elle en a lancé plusieurs.
D'accord. Et de votre côté, Serge, vous nous amenez...
Oui, je vais vous parler. Vous avez entendu parler déjà du radeau de la Méduse?
Oui.
Bon, c'est ça. Alors, je vais vous parler que c'est...
Un tableau célèbre.
Oui, que s'est-il passé sur le radeau de Méduse? Je vais vous raconter ça, c'est un peu macabre. On va parler de bijoux aussi de l'époque victorienne.
Ah, ça va être très intéressant.
Oui.
Des suggestions d'achat aussi. Merci beaucoup.
Non, mais suggestions d'emploi pour vous.
Ah?
Parce que vous saurez ce que la reine Victoria donnait à sa famille, également à ses dames de compagnie.
Ah,
donc, vous auriez pu, Isabelle, être dame de compagnie de la reine Victoria.
Oui, j'aurais été
parfaite. Ou postuler pour la reine Élisabeth actuellement.
Merci, Serge. Alors Serge, on y va tout de suite avec ce fameux radeau. Vous allez nous dire vraiment ce qui s'est passé sur le radeau?
Oui.
Parce que c'était un vrai radeau là, qui a
oui,
inspiré
vrai.
Oui, vrai.
Là, il y a un livre qui a été écrit sur cette tragédie-là et c'est enregistré ici à Vues et Voix.
Donc, c'est disponible au SQA?
Il doit être disponible actuellement parce que moi, j'en ai parlé à l'émission de Clotilde la saison dernière.
D'accord.
Donc, c'est un article paru dans Ça m'intéresse, histoire de l'automne 2018. Un article de Manuela France. Que s'est-il passé sur le radeau de la Méduse? Alors, je vous montre la photo. Comme vous voyez, c'est assez... Je peux le décrire un peu,
J'avais oublié à quel point c'était macabre.
Oui, ça
donne pas le goût d'être sur le radeau.
Oui. Ce sont des naufragés qui sont sur un radeau et qui sont vraiment... ça fait pas la première journée qu'ils sont là, ça doit faire une couple de jours.
Ils ont eu très chaud, hein, parce qu'ils sont nus.
Oui. Et ils envoient, il y a un bateau. En fait, le radeau voit un bateau au loin. C'est à l'époque 1800, c'est des bateaux à voile, donc... Mm-hmm. Et certains sont rescapés. Donc, c'est le 2 juillet 1816, donc c'est quand même il y a un bout de temps. La frégate française, la française s'échoue sur un banc de sable au large de la Mauritanie. En découle un drame macabre qui inspirera le peintre Géricault, son tableau le plus célèbre. Affreux tas de cadavres pour les uns, pièce maîtresse pour d'autres. Au salon de 1819, le radeau de la Méduse, présenté par Théodore Géricault, crée la polémique. 200 ans plus tard, son tableau est l'un des plus célèbres du musée du Louvre. Mais connaissez-vous l'histoire tragique qui a inspiré le peintre? Tout commence en 1815. Après la défaite de Waterloo, Louis XVIII, le roi français, le frère de Louis XVI, retrouve le trône de France. Hugues Duroy de Chaumarais, capitaine de frégate, est nommé chef de la division navale du Sénégal. C'est un officier noble, émigré de la Révolution. Il n'a pas navigué depuis 28 ans. Et ne doit sa nomination, évidemment, qu'au retour au pouvoir de Louis XVIII. Sa mission, conduire à Saint-Louis, le nouveau gouverneur du Sénégal, Julien Désiré Schmatz, ainsi que les fonctionnaires et troupes chargées d'administrer la colonie. Le 17 juin 1816, une flottille de 4 navires, l'Écho, la Loire, l'Argus et la Méduse, quittent le port de Rochefort. Il faut le voir ce jour-là, la frégate avec ses trois mâts et ses 44 canons filés majestueusement sur les flots. À son bord, 396 passagers, bourgeois, aristocrates, soldats. Et aux manettes de ce fleuron de la marine française réputé pour sa rapidité, le vaniteux capitaine, est fier comme un coq. Il n'écoute personne et 6 jours plus tard, disloque le convoi pour partir seul en tête. Accumulant les erreurs de navigation, Chaumarais décide, malgré les avertissements de son état-major, de mettre le cap sur un haut fond, pourtant redouté de tous les marins, le banc le banc d'Arquin, situé à une cinquantaine de kilomètres de la Mauritanie. Hélas, le 2 juillet, c'est le drame, la Méduse s'échoue à marée haute. Pour alléger le bateau, l'équipage entreprend la construction d'un radeau de 20 mètres de long sur 12 mètres de large.
Il avait l'air un peu moins gros que ça sur la peinture. Ouais.
Le 5 juillet, le capitaine ordonne l'abandon et l'évacuation du navire. Sans attendre, il réquisitionne les 6 canots de sauvetage pour les grader, évidemment, dont lui. Ses officiers n'hésitent pas à abandonner les 150 autres naufragés, des soldats pour la plupart. Des hommes affolés qui s'entassent sur le radeau de fortune avec pour seule provision 75 livres de biscuits, 2 barriques d'eau et 5 de vin. Commencent alors 13 jours d'errance marqués par la faim, la soif et la violence. Comme ils ont de l'eau jusqu'à la ceinture, les pauvres âmes ne peuvent ni s'asseoir ni se coucher. Dès la première nuit, 20 hommes meurent, emportés par les vagues ou coincés entre des planches. La deuxième nuit, alors que la tempête se lève, des soldats s'enivrent, une rixe éclate et fait 65 morts.
OK, c'était pas suffisant qu'ils se noient, il fallait qu'ils s'entretuent en plus.
Donc l'alcool tue plus de monde que la tempête à ce moment-là.
Les mutins sont jetés à la mer, les blessés aussi. Au troisième jour, la panique et le soleil de plomb conduisent les rescapés à la folie et au cannibalisme. Certains s'hydratent avec leur urine, d'autres mangent des lambeaux de cadavres crus ou cachés ou séchés sur des cordes. Le 11 juillet, il ne reste plus que 27 survivants qui sacrifient les plus faibles pour survivre. La plongée aux enfers prend fin le 17 juillet au matin. L'Argus, le brick parti de Rochefort avec la Méduse, paraît à l'horizon. Il recueille à son bord 15 morts vivants, littéralement, affamés, désorientés, brûlés par le soleil et l'eau de mer et couverts de blessures. 5 d'entre eux meurent dans les jours suivants, donc il n'y en est pas resté beaucoup.
Donc ils étaient partis 150, puis il y en a 10 qui ont survécu. Ouais, ouais.
En décembre 1816, Chaumari, mis en cause pour son incompétence et sa lâcheté, est arrêté. Lors de son procès qui débute à Rochefort sous haute tension, il est condamné à la dégradation militaire et à 3 ans de prison. Louis XVIII et le ministre de la Marine, le vicomte de Bouchage, l'ont lâché pour étouffer l'affaire. Ça se fait encore aujourd'hui, on lâche quelqu'un. Mais en novembre 1817, 2 rescapés, l'ingénieur géographe Alexandre Coréard et le jeune chirurgien auxiliaire Jean-Baptiste Henri Savigny livrent leur témoignage dans un ouvrage qui fait sensation. Leur best-seller ébranle et divise la France de la Restauration. Parmi les lecteurs bouleversés, Théodore Géricault, un jeune peintre de 26 ans.
Merci beaucoup, Serge.
Et si les gens écoutent le livre, c'est là vous avez là, heure par heure, minute par minute, la descente aux enfers sur le radeau.
Avez-vous
là,
le titre du livre?
Je pense que c'est le radeau de la Méduse ou les naufragés de la Méduse, peut-être que Jean-Sébastien, je ne sais pas si vous pourrez vérifier.
Oui, on va chercher ça. Je ne me rappelle pas du titre exact. Là, on reviendra avec les informations. Merci.
Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.
Alors, merci pour ce choix musical très judicieux. Et donc, vous allez nous parler de musique, justement, Daniel?
Oui, vous avez
deviné. Un autre sujet complètement, là. Difficile de faire un lien entre le radeau de la Méduse.
Mais vous avez probablement deviné de qui on va parler. L'article s'intitule d'ailleurs « Cré Ginette ». Et c'est un article de Marc Cassivi qui est paru le 22 octobre, donc quelques jours seulement. C'était tout un spectacle, à la fois une séance d'écoute d'albums, un gargantuesque déjeuner karaoké, une conférence de presse intimiste et un atelier de croissance personnelle, avec des rires de puissants trémolos, on n'en doute pas, des yeux embués et des digressions en tout genre liées de près ou de loin aux nouvelles chansons de Ginette Renaud. « La maison est grande », c'est le titre d'une pièce écrite par elle-même, sur son 40e, vous demandiez tantôt?
40e
et plus récent album. Donc, ça veut dire qu'elle avait fait 39 avant, mais probablement qu'il y en a là-dedans, c'est beaucoup des compilations.
Quand on a des grands succès comme Madame Renaud,
Elle avait commencé très jeune.
Elle a commencé sa carrière dans les années, fin des années 60.
Hein, elle était très jeune quand elle a commencé. C'était suite à un concours qu'elle avait gagné. Je pense qu'elle avait 12-13 ans, quelque chose. Donc, son plus récent album qui s'intitule « À jamais » qui évoque sa rupture avec Carlo, son ancien compagnon. Une grande maison canadienne de 22 pièces avec terrain de tennis attenant qu'elle habite depuis plusieurs décennies dans un quartier résidentiel de Boucherville où elle vit désormais seule, à regret. C'est dans sa salle à manger que la diva, bronzée, rayonnante, les cheveux mi-longs, poivre et sel, a convié une vingtaine de journalistes et photographes jeudi matin pour déposer sur la table, comme on dépose son testament chez le notaire, une nouvelle collection de chansons coup de cœur, ainsi que des dizaines de croissants, beignes et viennoiseries auxquels personne n'a osé toucher.
Mais là, pour vrai!
Voyons!
Méchant gaspillage, pas drôle! Mais peut-être que c'est organisé avec ça après, je ne sais pas.
Ouais, c'est un don, j'imagine, à une banque alimentaire.
Peut-être. Pendant près d'une heure et demie, Ginette Renault a assuré l'animation de cette divertissante rencontre de presse sans temps mort. D'une quarantaine de chansons potentielles, certaines qu'elle dit conservées dans ses tiroirs depuis des décennies, Ginette Renault, superstitieuse, a choisi 13 titres, son numéro chanceux. Pendant qu'elle nous les présentait, elle s'accompagnait elle-même au chant, ajoutant une couche de trémolo et de notes de si bémol. Sa note, apparemment. Je ne sais pas pourquoi celle-là, là, elle vibre mieux que les autres.
Ah,
là,
peut-être, mais... ben, peut-être c'est... que c'est sa spécialité.
Oui, dans son registre, il y a une note qui est meilleure que les autres. Elle a toujours autant de coffres et de soul, et malgré sa quasi-surdité, ça, c'est surprenant.
Ah
mais,
oui, je ne savais pas ça, moi.
Ouais. Elle a 9 % et 7 % de capacité auditive dans chaque oreille. Sans ses appareils, dit-elle, sa voix rauque de velours est toujours aussi juste et puissante. La grande interprète d'un peu plus haut, un peu plus loin, a fait appel à plusieurs auteurs et compositeurs de prestige qui ont déjà travaillé notamment pour Johnny Hallyday, qu'on va parler tantôt, ou Céline Dion. Cela s'entend, on est dans la même famille musicale, du mieux vaut trop que pas assez.
J'essaie de trouver le lien entre John Hallyday et Ginette, mais oui, ça, effectivement. Ouais.
On reconnaît sans effort la poésie de Luc Plamondon, « Le temps ne nous attend pas, insolent comme un cerf-volant. Sur la pièce, je n'ai pas vu passer le temps. » Grand Corps Malade a signé le texte d'un être humain, chanson aux tonalités rock qui rappelle le Claude Dubois des années 80. Il y a aussi un duo des plus improbables avec Linda Lemay que Ginette Renault a rencontré par hasard sur un plateau de tournage. « À jamais je voudrais m'oublier, mais jamais je ne veux être oublié », chante Ginette Renault sur la chanson-titre de cet album « Bilan », dont elle signe aussi les paroles, où il est beaucoup question de legs, d'héritage et de mort. Avec des titres à l'avenant, « Je pars »,« Je n'ai pas vu passer le temps »,« On ne fait que passer ». Elle n'hésite d'ailleurs pas à dire qu'elle a déjà un pied dans la tombe. Pourquoi donc? Peut-être parce que son père est mort à l'âge qu'elle a aujourd'hui, 72 ans, et sa mère à 77 ans. « Je pense tous les jours à la mort », dit-elle très sérieusement, tout en précisant le sourire en coin qu'elle ne déteste pas l'idée de mourir d'un dernier orgasme. Crée Ginette!
Quelques éclats de vie. De 3 photos usées, au banc des souvenirs, un cœur des noms gravés. Des mots d'amour, des fleurs, que je sème sans compter. De toutes ces couleurs, que va-t-il en rester? Les yeux doux d'une mère, tout près du Saint-Laurent. Le sable d'une terre qui coule dans mon sang. De joies en creux de vagues et de doutes en succès. De toutes ces batailles, que va-t-il en rester? Un refrain, une trace, un bout d'éternité. Que l'air du temps efface, on ne fait que passer. Un refrain, une trace, un rêve partagé, qui nous donne notre place, on ne fait que passer. Dans l'album de famille, des rires, une grande tasse. Point de feu où brillent des heures inoubliables. Avec les chants du soir, une envie de rêver. De toutes ces belles histoires Que va-t-il en rester? Un refrain, une trace, un bout d'éternité. Que l'air du temps efface, on ne fait que passer. Un refrain, une trace, un rêve partagé. Qui nous donne notre place, on ne fait que passer. Quelques notes oubliées, laissez-moi une place, je ne fais que passer.
Et c'était le titre de cette plus récente pièce de Ginette Reno, de son prochain album À Jamais, On ne fait que passer. Et je reviens tout de suite sur le dossier de
oui,
la
le
Méduse.
Livre sur le radeau de la
oui,
Méduse.
Oui, oui. Oui, donc le titre, c'est simplement Les naufragés de la Méduse. Et c'est écrit par Jacques-Olivier Boudon, B-O-U-D-O-N.
Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Et ça nous mène maintenant aux bijoux. Victorien, donc vous allez nous parler de ce qu'il y avait autour des bijoux à l'époque de la reine Victoria.
Les bijoux, c'est un article de la revue Capodiamant de l'automne 2003. Un article de Jocelyne Rouleau, qui est gémologiste diamantaire, spécialiste des bijoux de succession. Les bijoux, au même titre que les livres, les meubles et les accessoires de décoration font partie du patrimoine matériel et témoignent de l'esprit d'une époque. Si de tout temps ils ont fasciné les gens et contribué à façonner l'histoire, c'est surtout à l'ère victorienne qu'ils ont connu leur plus grande popularité. En 1837, la reine Victoria inaugure ce qui sera le plus long règne de l'histoire de Grande-Bretagne. Avant, parce que maintenant, elle s'est dépassée par la reine Élisabeth
II.
Oui,
c'est ça, au moment d'écrire l'article, ouais. Ça n'avait pas encore été dépassé, ouais. J'imagine.
Alors, pendant 64 ans, la reine Élisabeth est rendue à la 66 ans, 67 ans de règne. Là. De 1837 à 1901, elle symbolise l'expansion et le triomphe de l'Empire britannique. Cette impératrice des Indes, il ne faut pas l'oublier, le souverain de Grande-Bretagne a été empereur des Indes, empereur-impératrice des Indes, reine de Grande-Bretagne et d'Irlande, que le peuple verra d'abord jeune femme et qu'il suivra ensuite jusqu'à son très vieil âge, est altière, passionnée par les jolies choses, extrêmement cultivée au sujet de tous les styles d'époque. Elle influence donc les modes de vie, entre autres par son goût et son amour immense des bijoux. Regardez la jolie photo de la reine Victoria. Avec ses bijoux.
Ben oui, je ne sais pas pourquoi, moi j'avais l'impression qu'elle était toujours habillée en noir, mais ça c'est vers la fin de sa
quand
vie.
Quand son mari est décédé, elle a pris le noir et elle n'a plus quitté le noir.
C'est ça, mais avant ça, elle était extravagante. C'est intéressant de savoir le contraste. Entre
mais même habillée en noir, elle portait cette couronne-là.
Elle avait quand même une couronne. Ben là, elle n'avait pas le choix de porter une couronne probablement, donc c'était une bonne excuse.
La turquoise est la pierre préférée de la reine. Lors de son mariage en 1840 avec Albert de Saxe-Cobourg-Gotha, son cousin allemand bien-aimé, écoutez bien Isabelle, c'est là que ça devient intéressant pour vous. Elle offre en cadeau à chacune de ses dames de compagnie une bague avec son portrait peint à la main, entourée de turquoise taillée en cabochon.
Wow, quand
imaginez
même!
Imaginez, Isabelle!
Oui, mais moi, je ne porte pas de bague à part mon alliance.
Mais c'est pas grave.
C'est l'intention qui compte.
Ben oui. Imaginez, vous pourriez. Si vous voyez dans les offres d'emploi qui passent, là, dames de compagnie pour la reine Élisabeth ou pour la duchesse de Cambridge ou la duchesse de Sussex, la nouvelle duchesse, là, vous pourriez postuler.
Tous les gens qui me connaissent sont morts de rire en ce moment.
Dans Jarbo, ça doit sûrement être annoncé.
Quelques années auparavant, si Sir Walter Scott, l'écrivain historique, avait écrit une nouvelle qui freine la demande pour les bijoux en opale. Il y dépeint cette variété de silice comme une source de malchance si elle n'est pas la pierre de naissance. Afin d'aider l'Australie, colonie britannique, à relancer le commerce de cette pierre, la reine Victoria n'hésite pas à faire don de bijoux de ce matériau à ses amis et aux membres de sa famille lors de son couronnement. Elle renouvelle l'expérience à l'occasion des fiançailles de ses filles. À la mort du prince Albert en 1861, la reine Victoria, veuve de 42 ans, porte le deuil complet. À son exemple, le noir, par l'entremise du jais de l'onyx et de la marcassite, ainsi que le blanc, par le port de diamants et de perles symbolisant les larmes, deviennent très répandus. Quels étaient les motifs les plus courants dans la composition des bijoux victoriens? Bon, les boucles, les serpents, les signes, les cœurs, les mains, les anges, les monogrammes, les étoiles, les croissants, le trèfle à quatre feuilles, la couronne, la croix ou l'effigie d'un souverain. Au Québec, par contre, les bijoux étaient à peu près inexistants avant 1850.
Ah oui, je ne savais pas ça. Mm-hmm, mm.
Ensuite, on les importait soit d'Angleterre, avec des bijoux de 9, 12 ou 15 carats, soit de France, 18 carats, ou encore des États-Unis, 14 carats. Pour l'Occident, c'est surtout grâce à la Grande-Bretagne, berceau et fondement de l'ère victorienne, évidemment, que les bijoux ont acquis leur renommée. Grâce à leur reine, les sujets de Sa Majesté ont pu longtemps se glorifier du fait que leur pays était le centre majeur de fabrication des plus belles pièces représentant l'apogée de la puissance politique, culturelle et économique de l'Empire.
Merci beaucoup, Serge. Alors moi, je vous amène non pas là où on peut porter des bijoux, mais en prison, en fait, pour vous parler des centres de guérison autochtone. Prison autochtone, guérison en détention, c'est un article qui a été publié le 22 octobre sur le site de Radio-Canada, ici Alberta, et qui est le texte d'un reportage de Marie-Pierre Mercier. Christopher Hull a tué, Odila Kewesans aussi. Pourtant, là où ils sont détenus, il leur suffit de tourner une poignée pour sortir. Rien ne les retient, sinon leur désir de rester et de guérir. Ils résident dans des pavillons de ressourcement, des centres gérés par et pour des Autochtones. Radio-Canada a eu un accès privilégié à deux de ces établissements d'Edmonton. Le premier, Stan Daniels, est l'un des cinq pavillons de ressourcement du pays gérés par des Autochtones et conçus pour des criminels autochtones. Il est situé au centre d'Edmonton et l'établissement est le plus grand du genre au Canada. On y compte 73 détenus. Les gestionnaires et la majorité du personnel aussi sont des Métis ou issus des Premières Nations. Il n'y a pas de barrière ici entre un gardien et un prisonnier, affirme Christopher Hull. Hull, je sais pas pourquoi je prononce l'âge comme ça. Non, Christopher Hull, qui réside à Stan Daniels depuis un an. Avant ça, l'homme de 29 ans a passé une dizaine d'années dans le système carcéral après avoir été reconnu coupable de meurtre. À Stan Daniels, on le traite avec respect pour la première fois. « Maintenant, je ne suis plus antisociale. Je peux parler à quelqu'un en le regardant dans les yeux. Je souris. Je suis capable de rire », nous dit-il. Pour être admis, les détenus doivent s'engager à renouer avec leur culture autochtone. Nous nous attendons, par exemple, c'est Marilyn Orr, qui est la directrice générale de Stan Daniels, qui nous dit ça, nous nous attendons à ce qu'ils prennent part à des cérémonies traditionnelles, une fois par semaine, ou à des rencontres régulières avec un aîné autochtone pour discuter de leurs difficultés. Ici, on met l'accent sur la guérison et non sur la punition. L'établissement n'a pas du tout les allures d'une prison. Il a plutôt l'air d'une résidence universitaire. Sur les murs, il y a une multitude d'œuvres d'art produites par les détenus. Bon, je vous en montre, il y en a ici quelques-unes. On voit une tête, grande tête d'aigle et un aigle aussi en vol.
C'est bien.
Mm-hmm. C'est effectivement pas ce qu'on s'imagine comme une prison. Mais surtout, les résidents ici ont davantage de liberté que dans une prison conventionnelle. Ils peuvent acquérir un talent insoupçonné pour la musique ou la peinture. Ils ne sont jamais enfermés dans leur chambre. Et on parlait de Christopher Hull, j'ai besoin avec son nom de famille. Ici, il est en train de peindre un paysage avec des aurores boréales. C'est vraiment super, là. C'est waouh, c'est criant de vérité. Mm-hmm. Des conifères, puis c'est ça, un ciel plein d'aurores boréales. Il nous dit « Je peux être seul dans une salle au sous-sol et peindre. Tout le reste n'a plus d'importance quand je peins. Les détenus peuvent même téléphoner à leurs proches quand ils le veulent. Si un détenu veut quitter l'établissement, personne ne le retient, mais la police est alertée et il ne peut pas réintégrer l'établissement. »
Le mois dernier... Il peut retourner en prison.
Pardon?
Il ne peut pas retourner en prison.
Ben, il ne peut pas retourner à cette prison-là. Donc, s'il se fait reprendre pour autre chose, ça va être dans une vraie prison. Donc, ça doit les motiver quand même.
Il va perdre des privilèges. Autrement,
mais vous allez voir plus loin, là, on filtre quand même. Ce n'est pas n'importe qui là, qui a accès à ces prisons-là. Le mois dernier, le transfert d'une femme autochtone reconnue coupable d'avoir tué une fillette dans un établissement du genre a eu des échos jusqu'à Ottawa. Les conservateurs n'avaient pas aimé ça. Pour eux, les crimes graves devraient plutôt se retrouver dans des prisons à sécurité maximale. Mais pour le gouvernement Trudeau, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Le processus d'admission dont je parlais est extrêmement rigoureux et tous les détenus ne peuvent y entrer. C'est aussi ce que confirme Claire Carefoot, directrice générale de Buffalo Sage, le centre de guérison pour femmes d'Edmonton, situé à quelques kilomètres de Stan Daniels. Elle nous dit « Les femmes que nous acceptons présentent un risque très faible de récidive et si elles s'échappent, il est peu probable qu'elles s'en prennent à quelqu'un. » Dans les étroits couloirs de l'établissement, un petit garçon d'à peine 3 ans court vêtu d'un costume de Spider-Man. C'est qu'ici, les femmes détenues peuvent vivre avec leurs jeunes enfants. Ces résidentes, Claire Carefoot et son équipe, les ont sélectionnées après avoir passé leur dossier au peigne fin. On compte ici 28 détenues, dont Odila Kewizans, condamnée pour meurtre. Elle nous dit, Madame Kewizans, « J'ai passé la moitié de ma vie en prison et je suis convaincue que Buffalo Sage est l'endroit qui va me permettre de retrouver une vie normale. » Les Autochtones sont surreprésentés en prison. Dans les prairies, ils comptent pour la moitié de la population carcérale alors qu'ils forment 5 % de la population. Et peut-être que la solution passerait par ces prisons autochtones. Dans une petite pièce, Odila Kewizans et une dizaine d'autres détenus participent au programme de la guerrière, un programme intensif qui s'étale sur plusieurs semaines. Il vise à montrer aux femmes la manière par laquelle leur traumatisme passé touche leur présent. S'il y a peu de recherches sur l'efficacité des méthodes autochtones en matière pénale, un rapport gouvernemental soutient que le taux de récidive des personnes qui ont terminé une thérapie en pavillon de ressourcement est de 6 % comparativement à 11 % qui est la moyenne nationale. Donc, c'est presque la moitié. Alors, c'est ça, il y a 6 centres de détention comme ça, de centres de ressourcement, pavillons de ressourcement, dans tout le Canada. Il y en a un au Québec. Et c'est ce qui met fin à cette première partie de l'émission. On vous revient après une courte pause. Merci beaucoup. C'est maintenant l'heure de cette deuxième partie qui sera consacrée en grande partie au cannabis. Pour ma part, je vais faire le tour des différentes nations autochtones au Québec et de comment elles vont décider de gérer, d'adapter la nouvelle loi qui permet le cannabis sur leurs différents territoires. Serge, vous allez aussi avoir un sujet sur le cannabis.
Oui, bien, je pensais, on parle tellement de cannabis depuis 2 semaines.
Bon, oui, non. Ça, c'est vrai qu'on est...
Intensivement. Oui, c'est ça. J'ai pensé, je suis allé fouiller, j'ai trouvé l'histoire du cannabis.
L'histoire du cannabis,
ça a commencé quand?
Très intéressant.
Bon, j'en ai parlé la semaine dernière, donc c'est réglé.
C'est ça, c'est réglé pour vous, Daniel, mais peut-être quelqu'un qui en a fumé du bon à une certaine époque
ça,
de sa vie.
Ça, oui, ça, on ne sait pas du tout.
On ne sait pas.
Mais un chanteur français très bien connu qui lance son album posthume... Donc, je vous en parle tantôt.
Merci. Et j'entre tout de suite dans le vif du sujet cannabis. Les nations autochtones établissent leurs propres règles. C'est un article qui a été publié sur lapresse.ca le 21 octobre et que j'ai séparé en deux. Donc, je vais commencer par les nations Mohawk et les nations Mohawk et la deuxième, c'est Atikamekw, je crois. Alors, la culture permise à la maison, tolérance zéro, production commerciale, Les nations autochtones de la province n'ont pas tardé à établir leurs propres règles du jeu avec l'entrée en vigueur de la légalisation du cannabis. Ça fait travailler les muscles de la mâchoire.
Un peu apparemment, le
au Canada. C'est ça. Pour éviter qu'elle ne vienne contrecarrer les effets déployés pour enrayer la toxicomanie, parce que c'est un problème qui était présent sur les réserves et sur les territoires autochtones. Donc, on ne veut pas que ça vienne détruire ce qui était fait. L'article est signé Fanny Lévesque. Alors, pour la communauté Mohawk de Kanawake, elle étudie la possibilité d'établir sur son territoire une usine de production de l'entreprise Canopy Growth. Un tel projet permettrait la création de 75 emplois, mais aucun accord officiel n'a encore été conclu avec le producteur. La communauté planche quand même toujours sur la définition de sa future loi encadrant l'usage du cannabis. On songe par exemple à établir l'âge légal à 21 ans, comme M. Legault nous a promis ou menacé de le faire. En ce qui a trait à la vente sur le territoire, Kanawake tient un sondage sur la question... En fait, a tenu un sondage hier, ben, parce que ça disait demain, là, j'ai dit, c'était publié le 21 octobre, donc avant-hier, et le 26 octobre. Donc, un sondage sur la question de la vente sur le territoire. Pour l'heure, un moratoire est en vigueur sur la vente et la production de cannabis et de ses produits dérivés. Les autorités de la communauté ont par ailleurs perquisitionné dans le commerce Greenleaf sur la route 138 et pour saisir plusieurs articles, dont on ne spécifie pas la nature, et une perquisition semblable avait aussi lieu au magasin The Joint la semaine précédente. Donc, on a justement un moratoire sur la vente, donc les personnes les entreprises qui ont décidé de devancer la loi, bien, on continue de sévir contre ces entreprises-là. Une réglementation intérimaire a été adoptée à Akwesasne. Il est notamment interdit aux personnes de moins de 18 ans de posséder du cannabis. C'est un peu logique. Pour la vente et la distribution, la communauté précise que les commerces qui souhaitent tenir ce genre d'activité doivent obtenir une licence délivrée par le Conseil des Mohawks d'Akwesasne. Et je vous parle, en fait, je vous ai dit Atikamekw tout à l'heure, mais non, là, je vous parle de la nation Mi'kmaq de Listigouche en Gaspésie. Contrairement à ce que prévoit la loi québécoise, il sera possible de faire pousser jusqu'à 4 plantes cannabis à la maison dans cette communauté Mi'kmaq. On sait que la loi fédérale permettait justement jusqu'à 4 plants, mais qu'au Québec, on avait la loi locale, provinciale, interdisait toute culture de cannabis à la maison. Alors, dans la communauté de Listigouche, ce sera permis. Le Conseil a adopté sa propre réglementation le 16 octobre à l'issue, lui aussi, d'un référendum. Il est, par contre, strictement interdit pour un particulier de vendre ou de distribuer du cannabis. Donc, on peut le faire pousser pour sa propre consommation. On peut probablement en donner à ses amis, mais c'est... distribuer, c'est interdit. Donc, ouais. Je ne sais pas si donner, ça constitue comme... Bon. C'est ça, ça constitue la distribution. Et finalement, la nation ouvre la porte à la production de cannabis sur son territoire, à condition que la communauté soit propriétaire à 51% de l'entreprise éventuelle. Donc, je pense que si Canopy Growth voulait s'installer sur le territoire... Mi'kmaq de Listigouche, ça serait pas possible, à moins qu'ils vendent 51% des actions à la communauté. Les retombées d'une telle activité devraient également être versées au développement de la communauté. Donc, ça devrait pas être une entreprise là, basée uniquement sur le profit. Il y a aussi un bureau du contrôle qui va être créé par la communauté pour assurer le respect et l'administration de la nouvelle loi sur le cannabis à Listigouche. Et donc, dans la deuxième partie de l'article, tout à l'heure, je vais vous parler de la nation Atikamekw, de la nation Huron-Wendat, des Abenaki et des communautés Innu. Voilà. Et maintenant, on va essayer de découvrir si certains chanteurs... a fumé du bon cannabis dans sa carrière. Peut-être que c'est ça qui l'a inspiré.
Un article écrit par Jean-Christophe Laurence qui est paru dans La Presse Plus, édition de lundi, le 22 octobre, qui a pour titre « Comme un air de résurrection ». Lancé vendredi en France, l'album posthume du rocker intitulé « Mon pays, c'est l'amour » s'est vendu à 300 000 exemplaires en moins de 24 heures. Du jamais vu.
C'est incroyable.
Vous savez de
ça.
Qui on parle, ben, je suppose.
Oui, c'est Johnny Hallyday.
Absolument.
C'est incroyable.
C'est énorme. Ah, et ça, c'est rien. Ben, c'est rien. C'est beaucoup, mais dans le journal Aujourd'hui, le 24 heures d'aujourd'hui, on annonçait que en 3 jours, il s'est vendu 631 473 albums physiques. On parle ici de CD ou vinyle totalisés ensemble.
Ils sont fous, ces Français.
C'est quand même surprenant. C'est quand même un record. Ce chiffre fracasse le record du chanteur Renaud qui avait écoulé en une semaine 287 000 exemplaires de son nouveau disque lors de son retour en 2016. Il y aura bientôt un an que Johnny est mort, mais le chanteur semble toujours bien vivant dans le cœur des Français qui continuent à lui vouer un culte sans bornes. C'est dire que ce 51e et ultime album, 51 albums tantôt, on parlait de Ginette Renaud qui en a fait 40.
Puis lui, il n'a pas commencé à 12 ans. Ah, peut-être, en fait.
Non, je ne sais pas quel âge, mais c'était pas mal dans la même période, début des années 60. Ouais. Donc, ce 51e et ultime album enregistré quelques mois avant sa mort, alors qu'il se savait atteint du cancer, était aussi attendu que, que l'ouverture d'un IKEA à Québec.
C'est vraiment devenu un symbole à l'ouverture d'un IKEA à Québec.
Dans une campagne promotionnelle digne des grandes années de l'industrie du disque, la société Warner a joué sur tous les fronts pour faire mousser l'événement. Au-delà de l'ambitieuse offensive médiatique, des magasins de disques ont exceptionnellement ouvert leurs portes à 0h01, donc minuit 1, dans la nuit de jeudi à vendredi, pour permettre aux fans les plus enragés de se procurer la galette dès les premiers instants de sa mise en marché. On croirait un nouveau produit Apple qui vient de sortir. Là. C'est pas mal le même type de mise en marché. Dans une autre mise en scène marketing menée conjointement avec la plateforme d'écoute en continu Deezer, un énorme kiosque de streaming avec 200 écouteurs était installé pendant toute la fin de semaine devant la gare Saint-Lazare à Paris afin que les passants et les fans puissent découvrir en groupe la dernière production du chanteur. Donc, on parle vraiment d'un événement. Ce n'est pas seulement un lancement de disque, là, c'est un événement national. C'est là qu'on retrouve Françoise, 57 ans, blouson noir et cheveux platine, fan depuis toujours. Cette serveuse de restaurant a traversé tout Paris pour vivre cette expérience collective, achetant même le CD en chemin pour suivre les paroles dans le livret. Là, on parle ici du kiosque de Deezer, là. Elle voulait participer.
Ah oui,
elle avait déjà le CD en main.
Elle avait déjà le CD, mais là, elle voulait participer.
Absolument. Donc, fan depuis toujours, elle ne voulait surtout pas manquer ça et trouve que l'album résume bien la vie et les différents styles du rocker. Même son cloche chez Paulette, qui se tient à quelques mètres, bien appuyée sur sa canne. Malgré son handicap, la dame de 77 ans a pris l'autobus spécialement pour l'occasion, après avoir entendu parler de cette installation à la radio. « Dès que je pars d'ici, je vais m'acheter le disque. Il faut avoir ça en héritage pour nos petits-enfants », confie-t-elle. Ça, c'est dans le fond, c'est un phénomène qu'on voit. Ça me fait penser un petit peu les Rolling Stones. Le fait qu'il y ait beaucoup de fans, c'est qu'il y en a qui les ont suivis depuis le début. Donc, ils ont des fans de 70 ans.
Je ne suis pas convaincue de l'héritage pour les petits-enfants. Par exemple, je pense que les petits-enfants vont regarder le CD et ils vont dire « Bof, je vais écouter ça sur Spotify, moi. »
Ouais. On s'attendait à une faune majoritairement grisonnante issue des années 60 et 70. Erreur. Outre les incontournables baby-boomers, nombre de jeunes s'arrêtent aussi pour écouter l'album. Mais pour écouter, probablement par curiosité,
voilà,
beaucoup
ça.
Aussi. Au total, 800 000 exemplaires de « Mon pays, c'est l'amour », vinyle et CD ont été mis en place dans les magasins en France. Énorme, voire miraculeux, considérant que le marché du disque, actuellement en pleine transition, s'oriente désormais vers la dématérialisation ou l'écoute en continu. Mais on a vu tantôt qu'ils vont peut-être en manquer cette semaine-là, s'il y en a déjà 631 000 vendus. Donc, signe d'une offensive commerciale exceptionnelle, l'album est même distribué dans 2 chaînes de supermarchés bien connues.
Je viens d'un pays où j'ai choisi de naître, un bout de paradis que tu te mets peut-être. Je viens d'un endroit sans drapeau ni frontière, une terre sans loi où personne ne se perd. Mon pays, c'est l'amour. Mon pays, c'est l'amour. Je suis né dans ses bras en même temps que toi. J'ai grandi sous ses doigts en même temps que toi. Mon pays, c'est l'amour.
m'a jamais quitté. Il est ce que je suis et tout ce que je fais. Mais moi, je sais qu'il se souvient de moi. Peu importe où je vais, il m'y attend déjà. Okay. C'est toi, même temps que toi. Oh, oui. En même temps que toi.
Yeah. Bon, je dois admettre que ça bouge un petit peu plus que Ginette Renault. Du moins, la chanson qu'on avait entendue. Alors, maintenant, c'est ça, je vous ai comme promis, je continue de lire ce texte de Fanny Lévesque dans la presse du 21 octobre. Donc, au niveau de la communauté, les trois communautés atikamekw du Québec, dont deux sont situées en Haute-Mauricie et une en Haute-Matawinie, ont accueilli avec une grande réserve la légalisation du cannabis parce que le fléau de la toxicomanie fait des ravages chez les membres de la nation. À Manawan, le Conseil a inséré une disposition particulière à son règlement administratif concernant la paix et le maintien de l'ordre pour encadrer l'usage et la consommation du cannabis. Comme pour l'alcool, il sera interdit, donc c'était déjà le cas pour l'alcool, interdit de consommer du cannabis ou de se préparer à le faire dans tous les endroits publics. Donc, on n'a pas le droit de se rouler un joint, autrement dit, j'imagine, c'est ça que ça veut dire. De même que dans les ruelles privées, terrains, cours ou champs, à moins d'avoir un droit de propriété. À Opichuan, le conseil de bande n'a pas adopté de nouveaux règlements en lien avec la légalisation du cannabis, mais déclare qu'il gardera un œil ouvert, préoccupé pour la suite des choses. Opichuan dispose d'un règlement visant l'expulsion pour une durée de 5 ans des revendeurs de drogue reconnus coupables devant un tribunal. Au niveau de la nation Huron-Wendat, donc le grand chef de la nation Huron-Wendat, Conrad Tsiwi, n'est pas revenu sur sa volonté d'interdire la vente et la distribution du cannabis sur le territoire de Wendake, près de Québec. La nation a modifié, la veille de la légalisation, son règlement portant sur les nuisances et les inconduites pour encadrer l'usage du cannabis. En plus de la distribution et de la vente, il est aussi interdit de cultiver, multiplier et récolter le cannabis. Donc, si on trouve un plant de cannabis qui traîne dans une ruelle, on n'a pas le droit de le cueillir. Même si c'est pas soi-même, on ne l'a pas fait pousser soi-même. Si la consommation de la marijuana est prohibée dans les espaces publics, il est par ailleurs interdit aussi, de se trouver dans la rue ou un espace public avec les facultés affaiblies par le cannabis.
Ah, ça, c'est plus difficile à
ça,
prouver.
Ça, c'est vraiment... Hein. Ben, oui, effectivement, qu'est-ce que ça veut dire, faculté affaiblie? Ah. Mais c'est beaucoup plus sévère parce qu'on n'a carrément pas le droit de se promener si on en a consommé, autrement dit. Ces mesures sont prises dans le but de protéger la santé et la sécurité des membres de la nation Huron-Wendat et de faciliter le travail des autorités pour que la communauté demeure un lieu où règne la paix, le bon ordre et la tranquillité. Un peu comme, c'est pas précisé, mais j'imagine que c'était interdit de se promener avec... les facultés affaiblies par l'alcool. En avril dernier, donc du côté des Abénaki, le Conseil des Abénaki de Danak a adopté un règlement interdisant la vente, la production et la distribution de cannabis sur son territoire. La consommation est aussi interdite dans tous les lieux publics, les immeubles, les terrains et les immeubles résidentiels appartenant au Conseil. Par ailleurs, si un membre de la communauté était reconnu coupable de l'une de ces infractions, il risquerait l'expulsion du territoire de la nation. Là, c'est pas mentionné. Mais on a déjà appris que la loi sur les Indiens fait que dans plusieurs réserves, les maisons sont toute la propriété du conseil de bande. Et là, on nous dit que la consommation est interdite dans tous les immeubles appartenant au conseil. Donc, je ne sais pas si ça veut dire que les gens n'ont pas le droit de fumer chez eux, donc pas du tout, dans toute la réserve. Ça, ce n'est pas précisé ici, mais c'est peut-être le cas. le conseil est sensible à la détérioration du tissu social de la communauté. A-t-il rappelé sur la page Facebook de la communauté? On parle ici là, des Abénaki d'Odanak. Et finalement, chez les Innus, La communauté Innu de Mastoyatch, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, s'en tient à l'application des lois fédérales et provinciales, même si la légalisation est déplorée, en interdisant notamment la consommation du cannabis dans les lieux publics. Le Conseil déploie cependant dès maintenant des actions de prévention auprès du public et principalement des jeunes pour les sensibiliser aux risques liés à la consommation de cannabis. Donc, on met l'emphase plutôt sur la prévention que sur la répression. Et finalement, chez les Innus de Ouachat-Mac-Manutenam, près de cette île, le chef Mike McKenzie s'est dit très inconfortable avec l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, craignant que sa communauté ne devienne un bar ouvert pour les trafiquants. Il faut savoir que cette île a souvent été identifiée par les autorités comme une plaque tournante du trafic de drogue. Le chef McKenzie dit vouloir prendre un pas de recul avant de positionner le conseil. Et ça a commencé quand, le cannabis?
Longtemps. Est-ce que vous risqueriez un moment dans l'histoire où ça a commencé?
Qu'on a commencé à en fumer ou en l'utiliser?
À l'utiliser?
Avant que les Français arrivent ici, Daniel.
Mais dans le monde.
Mais dans le monde, c'est ça, parce qu'en fait, ça serait intéressant de savoir où, effectivement,
ça
a commencé.
Ça vient pas des Indes ou...
Le chanvre, vous allez nous dire ça,
oui, ça a été
Serge.
Très largement utilisé au cours de l'histoire. Il côtoie l'être humain depuis le néolithique.
Ok. Ah, oh, ça fait très longtemps. Aïe, ça.
C'est documenté, ouais. Oui.
Il a toutefois été peu à peu fortement réglementé ou même interdit au cours du 20e siècle en raison de ses propriétés psychotropes et des effets du cannabis sur la santé. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai quelques personnalités qui ont dans l'histoire, qui ont consommé et qui écrivaient en même temps. Ça les excitait.
Ah oui, ouais. D'accord.
La culture du chanvre agricole connaît un rebond dans les années 1970 avec l'augmentation du prix du pétrole. Là, je ne comprends pas pourquoi le prix du pétrole a augmenté, mais en tout cas.
Est-ce que c'était plus facile? Non, je ne sais pas. Alors,
favorisé également par l'émergence de nouveaux débouchés et la prise de conscience environnementale, savez-vous quel est le principe en 2017, quel était le principal producteur de chanvre?
Mais là, on parle du chanvre, la plante,
pas nécessairement
le cannabis.
Ben, c'est le...
Dans le but de consommer du cannabis. Ouais. Mm-hmm. Le plus grand producteur en termes de pays ou en termes de...
Pays.
Colin.
Quel pays?
Je ne sais pas, les États-Unis, parce qu'il y avait déjà, c'était déjà légalisé dans certaines...
C'est pas en Amérique.
Non, pas en Amérique.
Moi,
non.
C'est en Asie.
En Afrique.
En Afrique.
Afrique.
En Afrique du Nord.
Ah.
Près de la Méditerranée.
Le Maroc.
Le Maroc.
Ah, ben.
Avec 45 000 hectares cultivés en 2017.
Donc, avec les fameuses clémentines du Maroc, on peut aussi avoir le cannabis du Maroc.
Oui. Ensuite, ça passe à la Mongolie avec 15 000 hectares. Petite Mongolie. Le cannabis récréatif est considéré comme une drogue douce, notamment du fait de l'impossibilité de faire une overdose de THC. C'est ce qui est vrai? Vous secouez la tête?
C'est quand même non négligeable comme détail. C'est rassurant, en quelque sorte.
Selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, 180 millions de personnes ont consommé au moins une fois du cannabis à usage récréatif en 2017. Mais ça devrait être plus que ça. Peut-être aux États-Unis.
Ça, c'est ceux qui l'ont admis.
Oui, c'est ça, oui. Et pour le vocabulaire, le mot chanvre est dérivé du latin cannabis. C'est ce dernier qui a donné son nom scientifique au genre botanique cannabis, mais aussi dans le langage courant au cannabis récréatif. Il faut toutefois souligner que le mot latin n'est autre que la translittération de l'arabe kunebba.
Il y a quand même plusieurs noms.
Mais aujourd'hui, quand on fait référence au chanvre, d'habitude, on parle de la plante qui est utilisée, par exemple, dans le textile.
Ouais, exactement, oui. Mm-hmm. Le chanvre est une des premières plantes domestiquées par l'homme au néolithique, probablement en Asie. Il a ensuite accompagné migration et conquête pour se répandre sur tous les continents. Jadis, le cannabis était considéré comme une plante magique, associée aux pratiques magiques. D'ailleurs, il était utilisé dans les rituels funéraires. La fumée de l'herbe séchée et brûlée sur des pierres ardentes en présence du défunt était censée déconnecter du monde matériel et permettre de parler aux esprits. Je pense que ça le fait même pour les vivants.
Oui, mais ça a été remplacé par l'encens à un moment donné. Mais
ça ne devait pas avoir autant d'effet, par contre, pour parler avec les esprits.
Les fibres de chanvre servaient à confectionner des vêtements en Chine, mm-hmm. 600 ans avant Jésus-Christ, en Europe au Moyen Âge. Les vêtements royaux occidentaux étaient souvent constitués de mélanges de chanvre et de lin.
La... Ah oui.
Assez inflammable, ça, quand même.
Ouais.
Ben, c'est... Ben, moins que le Fortrel, je pense. Ah
ouais. Le Fortrel, ça fond.
Et saviez-vous que la première Bible imprimée par Gutenberg l'aurait été sur du papier de chanvre?
Ah, ça, je ne savais pas. Mm-hmm. À moins que vous nous l'ayez déjà dit, mais que j'ai oublié.
Ça en servait pour rouler. Ou...
Ah. Usage connaît.
Mais vous nous aviez déjà dit, lors d'une autre chronique, que les voiles des bateaux qui étaient arrivés en Amérique avaient été à base de chanvre.
Oui, oui, oui. Le papier de chanvre est utilisé jusqu'au 19e siècle, quand même. Et au début du 20e siècle, en Europe, les fibres de chanvre furent remplacées par le coton originaire des États-Unis. Entre autres, ces fibres résistantes et à portée de main ont servi à fabriquer des vêtements militaires lors des deux guerres mondiales. Mm-hmm. Et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, elles furent remplacées par des fibres synthétiques au tissage plus régulier. Traditionnellement utilisé pour faire des cordages, justement, du papier ou des textiles résistants, le chanvre moderne est cultivé plus particulièrement pour ses qualités d'isolant phonique et thermique. Le béton de chanvre et les briques de chanvre...
Ah oui, du béton de chanvre.
...permettent en plus de réguler la vapeur d'eau des murs et la laine de chanvre est réputée plus saine que les isolants traditionnels. Bien qu'il ait probablement été utilisé comme drogue occasionnelle durant son histoire, c'est aux États-Unis, parmi la scène jazz des années 1950, qu'on le voit devenir populaire. Daniel approuve.
Absolument, mais j'en ai parlé.
Exactement, c'est ça. Je me disais, on en a déjà entendu parler, mais oui, c'était assez émission.
Suivra une forte augmentation de son utilisation pendant les années 1960. Harry Anslinger, investigateur du système fédéral de lutte contre la drogue, fait surveiller et ficher de nombreux artistes susceptibles d'en consommer. Et en Europe de l'Ouest, l'explosion de la popularité du cannabis coïncide avec le mouvement hippie.
Ben oui, ça nous étonne pas tant que ça.
La consommation de drogue devient alors synonyme de contestation de la société bourgeoise. Maintenant, seriez-vous curieux de savoir, fumer et écrire, on associe quel nom dans l'histoire?
Les gens, qui a été inspiré par le chanvre?
Rabelais.
Ah,
oui. Que l'écrivain le plus drôle de la littérature française ait été un fumeur de cannabis est une idée séduisante. Toujours est-il qu'à la fin du tiers-livre publié en 1546, on trouve un joyeux éloge et une description précise du pantagruélion, une herbe magique qui soigne les maux et qui a toutes les propriétés du chanvre.
Mais c'est pas trop étonnant que Rabelais est inspiré par le cannabis, non, parce que le cannabis, ça suscite l'appétit, puis Gargantua et Pantagruel, il y a beaucoup de mangeage de nourriture.
Vous avez l'air à connaître ça beaucoup.
Dans mon jeune temps, j'ai consommé, je l'admets.
Bon.
Au moyen de cette herbe, les substances invisibles sont visiblement saisies, prises, retenues et comme mises en prison, peut-on lire. William Shakespeare.
Ah oui?
Wow.
Pour vrai?
Oui.
Ben, coudonc. Pourtant, c'était pas un musicien de jazz.
Et d'ailleurs, l'article commence. C'est étonnant, n'est-ce pas? Voyez-vous votre réaction. Mais le plus célèbre écrivain anglo-saxon aurait fumé du cannabis selon une très sérieuse étude du South African Journal of Science. En effet, des chercheurs ont trouvé des traces de cannabis dans les pipes de l'auteur retrouvées dans sa propriété vieille de plus de 400 ans. Ainsi que des traces de cocaïne, d'ailleurs. De quoi lire autrement « être ou ne pas être », être la célèbre tirade de Hamlet. Baudelaire.
Les fleurs du mal, oui.
Le Paradis artificiel, publié en 1860, est probablement le livre le plus célèbre sur l'expérience de la drogue et son influence sur la poésie. Et Baudelaire était plutôt critique. « Je ne comprends pas pourquoi l'homme se sert de moyens artificiels pour arriver à la béatitude poétique » puisque l'enthousiasme et la volonté suffisent pour l'élever à une existence supranaturelle.
Mais donc, il ne comprenait pas pourquoi, mais
non,
il faisait lui-même.
Il faisait, ouais.
Peut-être que je dis, mais pas ce que je fais.
C'est ça, il voulait savoir par expérience. Ouais.
Baudelaire faisait partie, avec Théophile Gautier, Jacques-Joseph Moreau de Tours, Eugène Delacroix, Alexandre Dumas et Gérard de Nerval, du club des Achéchines à Paris, où... on expérimentait cette drogue ainsi que l'opium. C'est un article de Chantal Guy dans la presse de samedi dernier. Il y a également Allen Ginsberg et Hunter S. Thompson.
Allen Ginsberg, vous, ça vous dit quelque chose, Daniel?
Oui, ça me dit quelque chose.
C'est toute la bande de la Beat Generation a fumé du pot et consommé bien d'autres choses.
Fin des années 50, début des années 60. Mm-hmm.
55 qu'on dit ici.
55. Mm.
Eh bien, c'est sur ces notes euphorisantes.
Chanvre-en-ville.
Que se termine l'émission de cette semaine. Merci beaucoup à Jean-Sébastien Laliberté, à la mise en onde et aux choix musicaux. En soutien à Daniel Lachance, toujours, qui nous apporte toujours des belles histoires musicales. Daniel Lachance, Serge Bradet et moi-même, Isabelle Falardeau, nous vous souhaitons une bonne journée. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.